Je suis Marie-Pierre Deschaines. Avec le podcast Souveraine, je t'invite, femme courageuse en quête de liberté, de simplicité et d'harmonie, vers la reprise de ton pouvoir sexuel et menstruel. Envisageons ensemble une société nourrie par les connexions humaines qui accueille la beauté de la simplicité en harmonie avec notre nature cyclée. Une société qui prend action pour respecter tous les êtres vivants et la planète. Faisons partie de la solution. Soyons des alliés au changement vers la circulation du savoir, de la richesse et de l'abondance de façon équitable et engagée. Nous sommes souveraines. Notre pouvoir n'est limité par celui d'aucun autre. Bienvenue dans notre communauté. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très, très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. La semaine passée, en fait, dans le dernier épisode, je vous ai parlé d'une leçon que j'ai apprise, en fait, en étant sur le web. Et c'était le fait, justement, de ne pas avoir peur de prendre des emplois à temps partiel. Et donc, cette semaine, j'ai invité la queen de ce thème-là, je pourrais dire. Donc, Tatiana Saint-Louis, qui vient nous parler justement de son parcours d'entrepreneur à temps partiel pendant quelques années. Et aussi, on a parlé justement du mythe du tout ou rien. On a dit justement que les plateaux, ça faisait partie de la progression et d'un rythme durable dans notre entreprise. Elle nous a partagé aussi certains jugements qu'elle a vécu, justement, quand elle était une entrepreneur à temps partiel. Et, ben justement, on a parlé de cette importance-là de ne pas se brûler et, justement, d'éviter les pièges pour ne pas vivre trop de stress. Et je te jure, ça m'a fait tellement, tellement de bien de parler de ça. J'espère vraiment aussi que ça va te faire du bien si tu es dans cette voie-là. Et aussi, sache que peu importe si tu as un autre emploi ou pas, tu es un entrepreneur à 100%. Et donc, si cet épisode-là t'a plu, je t'invite à le partager à d'autres personnes dans ton cercle, en fait, pour que l'épisode soit le plus entendu possible. Et si tu le souhaites, tu peux aussi nous taguer dans ta story. Donc, je vais mettre toutes les infos vers les liens de Tatiana dans la bio. Et sur ce, je te laisse à l'entrevue. Salut! J'espère que tu vas bien ce matin.
Je vais super bien. Et toi?
Oui, ça va très bien. Hey, écoute, je trouve ça drôle qu'on se parle un peu sur le fly. Je dis ça parce que on s'est parlé quoi la semaine passée, je pense, quand j'ai vu... Hey, je me souviens pas. Je pense qu'il y avait une discussion où j'ai vu un post d'Isabelle Paquette, je pense, et là, qui parlait du thème qu'on aborde. Et j'ai comme dit sur le fly, « Hey, ça te tente-tu qu'on en jase sur le podcast? » Parce que je trouve que c'est un thème qu'on aborde tellement pas. Puis je pense que t'es la bonne personne pour en parler. Et puis aussi, c'est drôle parce que je sais pas si ceux et celles qui nous écoutent depuis longtemps déjà savent que t'es venue en fait sur le podcast. Ça fait quoi? Ça fait un bon... ça fait plus que 2 ans, je pense.
Ça fait déjà
un bout. Ouais. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, je me souviens.
Fait que je vais mettre le lien vers l'épisode où tu nous jaser, en fait, c'était de vie sexuelle après l'arrivée d'un enfant, je pense, qu'on avait parlé de ça. Fait que je vais mettre le lien vers ça, si ça vous intéresse. Puis, ben écoute, on se lance. Moi, je j'ai le goût de te... En fait, pour ceux et celles qui ne savent pas du tout t'es qui, ce qui se peut, ce qui est peut-être rare, mais qui se peut quand même, ben écoute, j'ai le goût que tu nous parles un peu de qui tu es, de ce que tu fais dans la vie, puis surtout de ce que tu fais pour le plaisir, parce que ça, c'est vraiment la clé.
C'est intéressant, hein? Je pensais que tu allais me dire professionnellement, puis j'étais comme, non, ah, OK, non. Genre l'autre mot en P.
Oui, exactement.
OK, ben salut tout le monde, merci Marie-Pierre de m'avoir réinvitée sur ton podcast, c'est toujours le fun de te parler. Je m'appelle Tatiana Saint-Louis, je suis la fondatrice de M ta marque. M ta marque, c'était jadis un blog et c'est devenu une entreprise en bonne et due forme. Et ce que je fais, c'est que j'aide les femmes surtout, même s'il n'y a pas de barrière à entrer dans mon univers. Mais j'aide les femmes qui ont des problèmes de visibilité, dans un sens, ou de légitimité, à développer leur notoriété en ligne et développer des business qui feel bien dans leur tête, leur cœur et leur portefeuille. C'est comme ça que j'aime le dire ces temps-ci. Donc, j'ai un programme de coaching business pas mal holistique parce que selon moi, tu sais, quand on est dans la sphère professionnelle ou personnelle, il n'y a pas de distinction. On essaye de vraiment vivre nos ambitions, puis notre succès, puis notre réussite. C'est pas quelque chose qu'on met en silo. Puis c'est vraiment ça que j'essaie de construire à travers des entreprises qui sont durables, organiques, mais aussi qui répondent aux besoins de chacun. Puis qu'est-ce que je fais pour le plaisir? Là, en ce moment, j'ai commandé des kits de broderie. C'est vraiment weird.
Oh yeah! Non, ben je pense pas que c'est weird, je pense que c'est cool.
OK, j'ai commandé des kits de broderie parce que je suis en train de reconnecter beaucoup avec tout ce qui est créatif. J'étais un enfant très, très créatif qui faisait un tas de choses, de la peinture, de la musique, puis tout ça, puis... dans ma vingtaine, ça, je me suis comme déconnectée de tout ça, puis petit à petit, genre, je réintègre ces pratiques-là dans mon quotidien parce que ça me fait énormément de bien et ça m'aide aussi à faire mon travail mieux, à vivre ma vie beaucoup mieux aussi.
Ah ouais, puis je comprends ce que tu dis, ça me parle vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression que c'était un peu ça pour moi aussi, en fait, pendant très, 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 très longtemps, je me suis fait dire « Ah, mais toi, toi, l'art, c'est pas toi. Toi, t'es pas une artiste. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, ben, tu sais, pour moi, l'art, c'était comme, tu sais, plus l'art, je dirais, plastique, ce qui n'est pas ma force non plus, d'ailleurs, mais ce qui est pas grave. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, c'était comme, ben, toi, l'art, t'es pas vraiment bonne là-dedans. Fait que ça a été quelque chose qui a été... ben, qui a été très ancré en moi pendant longtemps, jusqu'à ce que je me donne le droit de me dire « Hey, mais sais-tu quoi? C'est pas grave, c'est pas beau, c'est pas grave, même si, mon art est pas comme la plus belle, tu sais, c'est pas grave. » Puis je trouve ça vraiment le fun que tu te donnes le droit, justement, de dire « Hey, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, puis pour plein de raisons, j'ai pas pris le temps d'en faire, puis là, je prends le temps de le faire, tu sais. Ça, je trouve ça cool, puis je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait du bien aussi de faire des choses dans mes mains, parce que c'est sûrement ça comme toi aussi. Je passe tellement d'heures devant, que ce soit Zoom, que ce soit genre document Word, peu importe, puis juste de faire des choses de mes mains, ça me fait tellement du bien. Fait que je sais pas si c'est comme ça pour toi, en fait.
Mais définitivement. Puis je veux juste revenir à ce que tu as dit tantôt à propos de pourquoi on t'a comme un peu aliéné de ton côté artistique. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que... puis je pense que c'est ça qui s'est passé dans ma vie aussi. Même si moi, c'était le contraire. On me disait que j'étais vraiment bonne. Mais c'est dès qu'on associe la notion de performance à créativité, je pense que c'est là qu'on perd le bénéfice, justement, de ce que la créativité peut nous apporter, parce que la créativité, c'est pas de performer pour les autres, c'est vraiment une activité, une pratique qu'on fait pour soi avant tout. Bref, ça, c'est un autre sujet de conversation.
Non, mais j'appuie fois mille, là, c'est ça,
Puis, par rapport à faire de ses mains, je vais pas te mentir, il y a une partie de pourquoi je fais de la broderie qui est parce que je veux passer moins de temps sur mon téléphone et j'occupe mes mains, je serai pas sur Instagram en train genre de texter quelqu'un ou de faire des affaires comme ça. Fait que
absolument.
C'est ça. c'est une petite façon aussi de me soigner à coups de choses qui font du bien.
Je comprends ça. Écoute, j'ai le goût qu'on enchaîne sur le thème central d'aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que juste avant qu'on se parle, je t'ai dit, j'ai dit, il faut vraiment qu'on en parle. Parce que si ça avait été le cas pour moi, si j'avais su ces infos-là plus tôt, ben je m'aurais peut-être évité une dépression puis un burn-out. Puis c'est ça, en fait. Puis tu sais, je pense que j'en ai jamais vraiment parlé sur le podcast du lien entre le fait d'avoir mis tellement de mon cœur et de ma tête dans ce projet d'entreprise-là et que ça m'a mené, c'est ça, vers un épuisement. Puis, ben écoute, je me dis si ça aide les gens, si ça l'ouvre les yeux sur différents enjeux, je pense que ça peut faire du bien. Et donc, c'est pour ça que j'ai le goût qu'on enchaîne et en fait, j'ai le goût d'ouvrir là-dessus sur, parce que, comme j'ai dit tantôt aussi, je pense que c'est hier que tu as mis des stories où tu parlais de ça, de ce thème-là, clairement. Puis, c'est ça, en fait, j'ai le goût que tu m'expliques un peu comment tu vois ça, toi, le mythe du, tu sais, vraiment, soit que c'est tout, soit que c'est rien, soit qu'on se lance, tu sais, vraiment temps plein, puis tu sais, qu'on n'a pas de, comment dire, tu sais, qu'on n'a pas de plan B. Je trouve que c'est un mythe qui est vraiment très présent. Puis, ben, j'ai le goût que tu m'en dises plus un peu là-dessus parce que j'ai l'impression que pour toi, c'est comme très important de dire que c'est un mythe, là, finalement.
Ouais. Bon, je vais raconter un peu mon histoire entrepreneuriale parce que je pense que ça va mettre le contexte sur plusieurs choses de pourquoi je réfléchis aujourd'hui puis je vois les choses comme je les vois aujourd'hui. Puis pourquoi aussi je travaille beaucoup avec des femmes entrepreneurs parce qu'on a des réalités différentes que les hommes. Puis c'est pas, tu sais, je veux dire, encore une fois, là, puis je pense que les gens qui écoutent le podcast, ils savent, tu sais, c'est pas « not all men », c'est pas tout le monde qui est dans les mêmes circonstances. Oui. On fait des généralisations, mais on sait que tout le monde n'a pas les mêmes exactes expériences, là. Mais bon. Fait que moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout, OK? Je viens d'une famille... mon père était fonctionnaire fédéral et il a pris sa retraite le plus rapidement possible. Il a fait ses années jusqu'à ce qu'il puisse dire comme « enough ». Ça n'a jamais été une culture vraiment de travail chez nous nécessairement. Puis il était beaucoup plus âgé que ma mère puis que la plupart des parents dans mon entourage. Fait que ça veut dire que moi, dans mon quotidien, je n'ai pas nécessairement vu mes parents travailler, entre guillemets, parce que ma mère était à la maison, puis elle s'occupait de nous, puis tu sais, on était capable de vivre sur le salaire ou de retraite de mon père. Donc, j'avais pas comme cette notion d'entrepreneuriat nécessairement. Par contre, j'ai vu en grandissant les problématiques liées à l'indépendance financière, notamment de ma mère. Okay? Puis le fait que justement, parce qu'elle avait jamais, entre guillemets, travaillé. Puis ma mère était beaucoup plus jeune que mon père, comme je l'ai dit. Fait que, tu sais, elle vient d'Amérique latine. Elle parlait pas la langue quand elle est arrivée. Fait que ça faisait qu'elle était dans une situation où elle sentait pas qu'elle allait être capable de se trouver un emploi nécessairement. Même si, genre, on s'entend, elle faisait énormément de bénévolat. Elle avait beaucoup de... Et elle a toujours, là, elle est encore parmi nous, naturellement, des skills, des aptitudes. Mais cette réalisation professionnelle, elle l'avait comme pas, tu sais. Puis elle a beaucoup étudié, ma mère, mais tu sais, c'était comme bon. Puis quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'étais dans cette tension-là. Tu sais, moi, j'ai étudié la littérature, donc le domaine de pelletage de nuages par excellence, où les gens te disent que tu vas comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans vie. On aimerait donc ça que tu étudies. Tu sais, tu pourrais tout étudier n'importe quoi. Pourquoi tu as choisi l'affaire qui va jamais te faire d'argent? Tu vas devenir quoi? Écrivaine, genre, tu sais?
Oh boy!
Fait que... tu sais, j'avais pas cette angoisse-là de devoir me trouver une job, dans le sens où j'avais pas full envie de travailler dans la vie. D'un autre côté, j'avais envie de vivre confortablement puis d'être sécure financièrement, de sorte à ce que je me sente pas prise un peu dans la situation où ma mère était, que j'avais comme un mari qui comme était en contrôle des finances, puis que, tu sais, bon. Fait que quand je suis arrivée à l'université, moi, j'ai toujours je travaille depuis que j'ai 15 ans, tu sais, pour me payer un tas d'affaires parce qu'on n'était pas non plus riches, là, tu sais, on s'entend, là. Ma grande angoisse, mettons, dans ma vingtaine, c'était de me trouver une job qui allait bien me payer. Puis à un moment donné, je me suis finalement, tu sais, de fil en aiguille, j'ai réussi à faire mon chemin, à trouver des bonnes jobs, tout ça. Puis là, j'ai atteint le summum de ce que je considérais pour moi être l'indépendance financière. J'ai réussi à mettre une mise de fonds sur un appartement par moi-même, là, tu sais.
Ah ouais, ce qui est quand même genre une grosse affaire. Là.
C'était une grosse affaire pour moi parce que c'était comme, OK, genre, je suis dans la bonne direction, puis avec ma maîtrise en littérature, je suis capable, genre, tu sais, de vivre, de m'occuper de moi-même, j'ai besoin de personne, puis tu sais, je suis indépendante. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant que j'étais en emploi, ben la déprime a commencé à me prendre.
Ouais.
Et la routine, et tu sais, comme on parlait du fait que j'étais une personne très créative, tu sais, c'était comme... Là, soudainement, puis j'ai été victime d'un harcèlement psychologique au travail pendant une bonne période. Puis ça a été vraiment difficile pour moi de juste réaliser ce qui se passait. Parce qu'en tant que high achiever, grande performante, tu sais, j'étais comme, ça se peut pas que ça... on me disait que j'étais pas bonne, genre, puis que je comprenais pas, puis des choses comme ça, puis j'étais juste comme... Ça cliquait pas, mais en même temps, j'étais genre, mais cette personne est là pour mon bien, fait que, tu sais, il y a quelque chose que je dois faire de pas correct. Bref, harcèlement psychologique au travail, ça m'a menée à devoir me trouver une autre job. C'est là que j'ai fondé le blog Aime ta marque. Parce que le but, c'était de montrer, parce que là, je commençais à m'intéresser au branding et tout ça, puis de voir comment on ne nous apprend pas à nous valoriser sur le marché de l'emploi. Fait que là, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça pour moi-même, pour ma propre recherche d'emploi. Puis mon site, mon blog, son objectif, c'était d'être un portfolio pour mon prochain employeur.
Ah oui, puis je pense qu'il a bien fait la job.
Et il a bien fait la job parce que ça a été la meilleure recherche d'emploi que j'ai eue, etc., etc. Puis, j'ai doublé le salaire que j'avais, tu sais, j'ai été capable de négocier mes choses, puis de vraiment prendre sur moi, puis sur la valeur que je pouvais apporter à des employeurs. Fait que là, j'avais trouvé une job qui me permettait de travailler à temps partiel, parce que là, j'étais comme, ah, mais ce blog-là, ça vient raviver tout ce côté créatif, ce côté genre d'impact que j'ai envie d'avoir. Puis en plus, ça parle d'indépendance, puis ça parle de comment...
Ouais, t'es plus libre, tu sais.
Puis ça parle de comment aider les autres femmes, tu sais, d'autres femmes à valoriser, justement, quand ils n'ont pas nécessairement des diplômes, puis des choses à même. Et là, je me suis fait offrir une autre job dans une université qui était comme pour moi genre le summum de ce que je pouvais rêver, avec un fonds de pension, avec la sécurité financière, avec, tu sais, un salaire que j'aurais jamais imaginé faire à mon âge, tu sais, à faire des trucs genre vraiment cool. Fait que j'étais comme, waouh, job de rêve qu'on est en train de me mettre sur un plateau d'argent, super compétitive, mais on m'a choisi. Et là, j'ai dû faire un choix entre est-ce que je continue dans ma lancée avec Aime ta marque, ou est-ce que je prends cet emploi-là? Puis là, tu sais, ça a été là que j'ai réalisé que il fallait que j'honore mon besoin d'indépendance financière aussi, tout autant que mon projet entrepreneurial, parce que pour moi, c'était comme extrêmement risqué dans ma tête, du moins, de tout laisser pour un projet qui ne me générait pour le moment pas assez d'argent, pour couvrir mes dépenses, mon nouveau condo que j'avais acheté. je voulais avoir une famille, je viens rencontrer mon chum à ce moment-là. Puis, tu sais, je voulais me sentir adulte. Tu sais, je voulais me sentir que j'étais comme en contrôle des choses, puis que tout allait bien. Puis, c'est là que je me suis dit, bon, ben, le timeline que j'avais de lâcher, de partir à temps plein sur ma business, puis de tout mettre, il a été réévalué parce que je me disais, je veux expérimenter aussi cette partie-là de ma vie qui est comme un peu plus sécure, tu sais, dans laquelle, genre, je peux souffler un peu. Puis pour moi, ça a été la meilleure décision parce que, premièrement, j'ai pu travailler dans un job qui m'a beaucoup valorisée pendant ce temps-là, mais après ça, ça m'a permis aussi de développer des aptitudes, puis j'ai jamais laissé Aime ta marque de côté, puis ça m'a permis aussi de voir à quel point je voulais que ce projet-là démarre, puis à quel point j'avais, tu sais, j'étais investie dans ça. Et ce que j'ai trouvé le plus génial, c'est que ma job me permettait aussi de financer ce que j'avais à financer pour Aime ta marque sans me sentir 100% stressée, sans me sentir que genre, tu sais, si je fais pas une vente demain, je serais pas capable de payer mon loyer, puis là, la banque va venir, tu sais, tout ce stress-là que j'étais comme, je veux pas avoir à vivre ça parce que j'ai vu ma mère, tu sais, avoir de la difficulté des fois à gérer l'argent alors que, tu sais, elle avait pas beaucoup, genre, de ressources qui rentraient autres que ce que mon père amenait, tu sais. Puis encore là, tu sais, mes parents étaient séparés, fait que c'était comme via, genre, comment t'appelles ça, là, les trucs des enfants, là, en tout cas.
La pension alimentaire.
Ouais, la pension alimentaire, exactement. Fait que, tu sais, je voulais pas avoir à vivre ça aussi rapidement dans ma vie d'adulte. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, je peux pas dire non à une job qui est comme, qui coche toutes les cases pour moi en ce moment. Et je peux pas non plus dire non à ma business qui coche les cases au niveau de ma passion puis de ce que je veux.
Ben oui, c'est ça.
Léguer, genre, tu sais, comme avoir comme leg. Fait que, tu sais, ça a été à ce moment-là que j'ai fait comme, let's go, on y va, on va faire les choses fonctionner. Puis, puis on verra, là, tu sais, on réévalue. Bon, j'ai parlé beaucoup, là. Ça, c'est comme l'historique.
C'est parfait.
Ouais.
Fait que ça revient au mythe. Tu sais, comme je disais tantôt, je pense que ça l'englobe vraiment bien, ce que tu viens de dire, tu sais, que t'es pas obligé que ça soit blanc ou noir. Ça peut être aussi une belle teinte de gris, une belle teinte de beige, tu sais. Puis je pense que ça explique bien ce que tu dis. Puis, ça, en fait, il y a une phrase que t'as mis aussi... dans tes stories, du mythe de si, en fait, c'est si tu te lances pas temps plein, ta business, c'est comme un hobby qui te coûte cher, tu sais.
Ouais.
Fait que j'ai comme le goût que tu en parles un peu.
Ouais. Là, de ça. Puis, je trouvais ça comme. Puis, tu sais, au fur et à mesure que je rentrais dans le milieu entrepreneurial, tu sais, je voyais justement que. Ben, c'est sûr. Puis, je comprends pourquoi les subventions, elles sont données à ceux qui se lancent à temps plein, puis des choses comme ça. D'un autre côté, il y avait aussi une genre de... un genre de dédain, des fois, quand je disais... Puis même que je le disais pas, bien souvent, genre, il y a des gens que plusieurs années plus tard m'ont dit « Je savais pas que t'avais une job à temps plein pendant que tu voulais ton entreprise, parce que ça avait l'air trop professionnel puis trop bien fait. » Mais... merci. Okay. Ben, parlant du hobby, tu sais.
Ouais.
Tu sais, genre, j'avais un peu de ressentiment de cette idée que... tu pouvais... C'était juste une question de... c'était juste une question de volonté ou de courage de se lancer.
Ouais.
Puis ça, j'ai trouvé ça super injuste quand j'ai comme compris qu'il y avait comme cette pensée-là qui circulait, surtout chez des hommes, puis je dis pas chez des femmes, mais dans... Puis je vais pas dire chez des hommes, je veux dire dans un mindset plus patriarcal, tu sais. Ou est-ce que c'est comme « Ah, c'est pas sérieux ce que tu fais » ou « T'as pas le courage de le faire à fond, fait que, tu sais, pourquoi est-ce qu'on prendrait le temps, genre, de te faire confiance ou des choses de même? »
Exact.
Puis, une partie de moi est comme « Je comprends cette idée d'y aller all-in, mais pour moi, y aller all-in, ça veut aussi dire de gérer ses risques comme il faut.
»
Puis, ce mythe-là qu'on peut tout lâcher à tout moment, tu sais, puis c'est pour ça que je voulais raconter mon histoire puis qu'on en revient à ça, c'est que... tu sais, dans mon cas, moi, c'est pas parce que je manquais de courage ou des choses comme ça, c'est parce que mes circonstances, mes propres traumatismes, mes propres, genre, ma propre enfance, ma propre relation à l'argent qui a été construite à travers, tu sais, ma situation socio-économique, etc., a fait que c'était beaucoup trop insécurisant et ça m'aurait desservi autant au niveau de mon mental que de mon entreprise. De prendre un risque qui est plus grand que ce que j'étais capable de prendre ou qui me permettait pas de faire les pas petit à petit pour prendre la confiance dont j'avais besoin pour ensuite me lancer, tu sais.
Exact, ben oui.
Puis, c'est pas une question encore une fois, que de courage ou non, c'est une question... Tu sais, pour moi, ce que je faisais, c'était intelligent.
Mm-hmm.
Tu sais, c'était l'affaire sensée à faire. C'est comme...
Ouais.
Puis mm-hmm. je pense à toutes les femmes, mettons, qui ont des enfants à la maison ou que, mm-hmm. tu sais, ils n'ont pas des coussins financiers nécessairement sur lesquels se retomber, comme par exemple, tu sais, mm-hmm. les fameux start-up qu'on imagine, genre... à Silicon Valley, que là, c'est comme,
oui.
OK, là, on va aller, genre, chercher plein de capital puis plein d'affaires de même, mais il faut savoir, tu sais, ces gens-là, ils habitent dans des...
Oui.
Tu sais, ils sont dans des situations hyper privilégiées. Mm-hmm. C'est des hommes, donc, ils ont, genre, du financement plus facilement, des hommes blancs qui ont du financement beaucoup plus facilement que des femmes, puis ça a été prouvé.
Mm-hmm.
Ben oui. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de passe-droits. Tu sais, comme, quelqu'un mm-hmm. qui n'a pas d'enfant peut... beaucoup plus facilement aussi manger, mais aussi se permettre de faire faillite, tu sais?
Oui, ben oui, exact.
Se permettre de faire faillite. Ouais. Puis tu sais, dans notre cas, dans mon cas à moi, c'était comme, non, genre, tu sais, comme... En tout cas, c'était mm-hmm. juste impossible. Fait que ce mythe-là, pour moi, je le trouvais très très insultant, en fait.
Mm-hmm, mm-hmm.
Je le trouvais insultant pour ma personne puis pour toutes les circonstances de femmes que je voyais, puis que ça maintenait dans le discours que, justement, toutes celles qui mitigent leur risque de cette façon-là, c'est des hobbyistes qui font juste, genre, des colliers, tu sais, de l'artisanat chez elles, puis qui vendent ça sur Etsy, puis qu'ils s'appellent entrepreneurs.
Ce qui peut être le cas, c'est parfait aussi.
Ce qui peut être le cas, et c'est parfait, mais je pense qu'il y a un dédain de dire que vous n'êtes pas des vrais mm-hmm. entrepreneurs, puis après ça, ben ça coule sur les femmes elles-mêmes qui disent « Ouais, ben peut-être je suis pas juste une entrepreneur. J'ai de la misère à m'appeler une entrepreneur. Genre, je me considère pas mm-hmm. vraiment comme une entrepreneur. » Puis là, c'est comme « Ah, OK, ben c'est ça qu'il faut comme aller questionner parce qu'il y a des façons différentes d'entreprendre. » Puis c'est ça, mm-hmm. genre, que je voulais montrer aussi en étant l'exemple de quelqu'un qui était capable de faire mm-hmm. croître une business à temps partiel et ensuite de choisir le moment où elle allait vraiment faire le saut parce que mmh. je considérais que j'avais suffisamment de filets de sécurité pour que ouais. je le fasse de façon intègre avec moi-même.
Ouais, exactement. Puis je trouve qu'un des points qui fait le lien avec ce que tu dis, en fait, c'est que souvent, ce qu'on nous dit pas, probablement par choix, mais c'est que ça prend du temps de mettre des bases
mmh.
qui, tu sais, puis ça peut prendre, là, 2, 3, 4, 5 ans, là. Puis, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais, tu sais, mettons qu'il y a des secteurs où c'est plus lent que d'autres, où la vente est peut-être plus difficile que d'autres. Puis, je ne sais pas pour toi, mais 5 ans, c'est long, là, sans que tu aies de tu sais, sans qu'il y ait quelque chose aussi qui est là pour toi, puis que, tu sais, comme qui fait que tu te sens safe, là. Puis ça, je trouve qu'on en parle pas assez, puis souvent, c'est comme... Tu sais, là, bon, je vais dire ça de façon très, très gros, mais je trouve que, tu sais, puis tu sais, comme tu dis, je pense que le monde qui est plus de l'entrepreneuriat patriarcal, qui nous pousse, là, il faut que ça soit vite, il faut que tu fasses plein de cash, puis tu sais, comme... puis je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut que ça soit une... je trouve ça dur de mettre ça en mots quand on le voit pas, mais mettons une pente qui monte, puis qu'il y a pas de plateau, qu'il y a pas, tu sais, qui bon. Puis ça, je trouve ça vraiment tough parce que je pense que c'est pas un rythme qui peut être sur le long terme. Puis que les plateaux, c'est sain aussi. Mm-hmm. Ça fait partie de ce rythme-là. Ça fait partie de « Ah, OK, parfait, tu sais. » Ben, tu sais, c'est pas une pause, mais tu sais, ça donne plus de temps pour dire « Ah, ben OK, parfait, là, je suis rendue là, je vois ce qui s'en vient pour la suite, tu sais, tout ça.
Mm-hmm. »
Fait que je trouve que c'est vraiment sain, puis c'est ça, en fait, je trouve que le rythme qu'on nous impose souvent, ce qu'on voit sur le web, c'est loin d'être sain. Puis, comme tu dis, je pense que quand on est une femme, souvent, je pense que tout ce qui est lié au risque, je pense qu'on a une vision vraiment différente de ça, comme tu l'as mentionné. Puis, tu sais, comme tu l'as bien dit aussi, le fait de qui nous sommes, tu sais, ce qu'on vit, ce qu'on a, tout ce qui nous forme aussi, ça joue vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça, on n'en parle pas parce qu'il faut qu'on fasse plein de cash, il faut que ça soit vite. Mais je pense que même si ça prend du temps, même si on prend notre temps, mais c'est parfait comme ça. Puis ouais, je trouve que tu l'as vraiment bien, bien imagé.
Tu sais, moi, avec mes clients puis tout ça, je le dis tout le temps, nous, on vise la durabilité. Parce qu'on est dans la game sur le long terme.
C'est ça, exact.
Puis la croissance exponentielle, c'est le fun parce que ça fait des belles histoires dans les magazines d'affaires.
Ouais.
Mais c'est pas nécessairement du long terme. Puis une des choses que j'ai beaucoup essayé de déconstruire aussi avec Aime ta marque, c'est les visions du succès, les définitions du succès. Puis c'est ça que je fais aussi dans mon podcast, t'sais, l'ambition féminine, de savoir... C'est pas toujours, tu sais, justement, genre, est-ce que de faire des millions de chiffres d'affaires, puis de travailler genre 20 heures par jour, puis de jamais voir ta famille, puis, tu sais, d'être épuisé, justement, c'est ça ta définition du succès? Non, tu sais, parce que dans, ben, peut-être, mais...
Peut-être mais, que oui, mais, peut-être, mais on te souhaite que non.
Mais pour la plupart des gens avec qui je travaille, c'est pas nécessairement ça, tu sais. Nous, c'est on cherche plus de plaisir, plus d'aisance, plus de, plus de liberté, plus d'alignement, tu sais. Fait que ça, c'est pas idéalisé, ou du moins, c'était pas nécessairement, dans le temps aussi où j'avais commencé, très visible. Dans les modèles de l'entrepreneuriat. Puis là, je trouve qu'avec l'entrepreneuriat féminin, ce qui est cool, c'est qu'on voit de plus en plus de modèles de durabilité ou de moins des choix, des personnes qui ont des choix qui sont beaucoup plus alignés avec ce qu'ils désirent réellement créer sur le long terme. Puis tu dis, ben quand on travaille sur le long terme, ben c'est pas vrai qu'on est toujours sur une pente ascendante, tu sais, les ressources.
Exact.
Puis moi, j'aime ça appeler ces périodes-là des périodes de consolidation. C'est une période où on calibre à un nouvel état dans lequel on est arrivé. Puis, tu sais, c'est correct de donner des pushs. Puis, tu sais, c'est un peu comme les cycles. Puis toi, je sais que tu étais venue sur le podcast pour parler des cycles, mais aussi, tu sais, c'est comme les cycles de création. Tu sais, on a un boost de création, puis après ça, genre, l'énergie va retomber, mais tu sais, on a la consolidation aussi. Quand on fait une peinture ou même n'importe quoi, tu sais, on va faire le croquis, puis après ça, ben tu sais, des fois, c'est juste faire les détails, remplir les, tu sais, remplir les couleurs, tu sais, puis c'est du travail qui peut-être est un peu plus plate, entre guillemets, ou tu sais, qui est moins,
les demandants, si on veut,
c'est comme, ouh, genre, magnifique, tu sais, mais c'est un travail qui est important parce qu'il permet au corps et au système nerveux et à tout ça de réaliser. Il y a une autre chose que tu as dit que je voulais adresser, c'était la gestion du risque. Puis, tu sais, il y avait quand je vous ai parlé de mon histoire, tu sais, j'ai parlé, tu sais, du fait que, bon, ben moi, j'avais commencé à investir dans l'immobilier puis des choses comme ça. Donc, j'étais déjà en train de jouer avec ma propre tolérance au risque. Puis je pense que c'est ça, des fois, qui est un peu difficile à adresser quand on n'a jamais été entrepreneur ou quand on est dans cette période un peu de transition-là. C'est qu'on va osciller entre le risque zéro, donc garder sa job et faire le minimum possible. Et quand on est capable d'avoir risque zéro, ben là, c'est vrai qu'on est peut-être dans le domaine plus du hobby, parce que si une entreprise a un risque zéro, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'entrepreneuriat, on n'est pas dans l'expansion, on n'est pas dans la création, on est vraiment dans « bon, je fais ça parce que c'est le fun », tu sais. Mais quand on commence à prendre des risques, puis tu sais, ces risques-là, ça peut être des investissements financiers dans son entreprise, mais ça peut être aussi de dire, tu sais, comme moi, par exemple, comment ça s'est manifesté, c'est que j'avais pris mon congé de maternité avec mon emploi, ce qui était comme... moi, je suis une très grande manifesteuse, ça s'est passé exactement comme je le voulais, j'ai eu ma permanence, j'étais enceinte, j'ai accouché, j'ai eu mon congé de maternité, j'avais une prolongation de congé de maternité. Et je me suis dit, c'est dans cette année-là que je vais y aller all-in. Mais j'avais ce coussin-là. Puis, tu sais, j'étais chanceuse dans, dans ma circonstance à moi, mais tu sais, les coussins peuvent être de différentes de différentes manières. Mais pour moi, c'était le coussin de dire, OK, maintenant, j'ai pas de revenus pendant mon congé de maternité prolongé. C'est mon terrain de jeu pour y aller all-in.
Puis faire des tests.
Et puis faire des tests.
Prendre des risques.
Puis décider si, c'est, si ce niveau de risque-là, je suis capable, genre, de le, de le maintenir. Puis là, ça a donné que c'était la pandémie, mais tu sais, ça, c'est une autre histoire.
Puis avec un enfant, tu sais, comme un jeune enfant, tu sais, tout ça, là.
C'est ça. Fait que dans le fond, quand on parle aussi de consolidation, c'est important aussi de se stretcher, des fois, à travers notre propre tolérance au risque, parce que c'est ça qui va faire qu'on va être capable soit de maintenir sur le long terme les deux, donc l'entreprise, et en plus de l'emploi à temps plein ou partiel, parce que c'est pas nécessaire qu'on ait un emploi à temps plein. Là. Moi, c'était un emploi à temps plein, mais on peut avoir des emplois à temps partiel aussi. Mais toujours comme reconnecter avec est-ce que je veux faire de mon entreprise mon...
ma source de revenus principale.
Exactement, exactement. Puis, puis ça, c'est une question complètement différente de la gestion du risque. Parce que, encore une fois, tu sais, devenir sa, faire de son entreprise sa source de revenus principale, ça vient avec tout un tas d'autres désavantages, tu sais. Ça vient avec tout un tas d'autres, genre, réalités. Fait que, tu sais, une chose que j'essaye aussi beaucoup de faire attention, c'est que il y a aussi une phase où on risque de faire de notre entreprise un calque de ce qu'on faisait quand on était salarié, tu sais, parce que on reste dans les terrains connus. Fait que prendre des risques puis être capable de s'expandre même dans un dans une entreprise à temps partiel, ça demande quand même de toujours challenger nos zones de confort.
Absolument. Ouais, puis je comprends exactement ce que tu veux dire, puis je trouve ça bien que tu amènes ça, parce que c'est pas parce que tu... Tu sais, c'est pas parce que tu lances quelque chose sur le web que tu veux nécessairement que ça devienne ta job, mais je pense que... je vais le dire comme ça, je pense qu'on s'est fait tromper dans ce sens-là, parce que, comme tu l'as dit, c'était pas quelque chose qui était visible jusqu'à... voulait pas très longtemps, puis j'ai l'impression que c'était comme si tu lances quelque chose en ligne, il faut que ça devienne gros, il faut que ça devienne ta job, il faut que ça, puis tu sais, il faut que ça prenne toute la place, quand peut-être au fond, toi, t'as lancé ça parce que ça te tentait, mais t'avais pas l'intention, t'avais pas cette envie-là que ça devienne trop gros, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, qu'on n'en parlait pas, puis que qu'on nous a pas amené dans ces genres de je dirais, de zone de réflexion-là non plus. Puis quand t'as pas la place et quand tu prends pas le temps de le faire, c'est là que tu fais des choix, comme tu dis, qui sont peut-être pas les plus sains pour toi, sont peut-être pas ceux que tu souhaites vraiment, mais ceux que tu veux que les gens voient, tu sais. Puis c'est un peu ça le piège, je trouve. Puis ouais, non, je pense que tu l'as bien... tu l'as bien expliqué vraiment là-dedans.
Puis la raison pourquoi on le voit pas tant, c'est que les gens ou les, tu sais, les personnes qui sont en entreprise à temps partiel, ils ont honte, tu sais. Ils ont honte de s'appeler des entrepreneurs. Puis ça, je le sais, là, tu sais, c'est pas... Puis même si on me dit « Ah non, mais moi, j'ai pas honte », mais c'est comme « OK, mais est-ce que tu fais des publications pour me parler de ton entreprise? » Puis là, c'est comme « Non, mais je veux pas que mon employeur le voit. » Puis c'est comme « OK, genre, là, on commence à sortir... » toutes les raisons pour lesquelles on s'invisibilise nous-mêmes. Tu sais, « Ah non, mais je veux pas que ça grandisse trop vite. Ah non, mais je veux pas, genre... » Tu sais, puis c'est comme « Ah, OK, genre... » Là, t'es en train de me montrer les propres limitations que t'es en train d'imposer sur toi-même. Fait que c'est pour ça qu'on en revient toujours à la question « Qu'est-ce que tu veux vraiment, tu sais? »
Ouais.
Puis qu'est-ce que tu réponds avec... Tu sais, il n'y a rien de mal à juste être salarié, il n'y a rien de mal à être juste entrepreneur, il n'y a rien de mal à faire les deux. La vraie réflexion à avoir, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi-même, pour ta vie, pour ta réalité, pour ton... Tu sais, puis après ça, de prendre des décisions en conséquence qui vont te permettre justement de te sentir aussi stretché que tu le veux, mais aussi allumé, passionné, intéressé.
C'est ça, exactement.
Et, Et avec ça, ben, tu sais, on prend aussi les plus mauvaises parties, tu sais. Je veux dire, quand on est entrepreneur à temps plein, ben, si l'argent rentre pas, l'argent rentre pas. Est-ce qu'on a d'autres filets de sécurité? Moi, je parle beaucoup d'actifs dans tout ce que je... Mm-hmm. Tu sais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'actifs financiers maintenant, parce que, tu sais, c'est pas juste... tu sais, je veux dire, même mes diplômes, hein, nos diplômes, c'est des actifs parce qu'ils nous permettent après ça d'aller nous trouver des jobs.
Ou, absolument.
Notre CV, c'est un actif. Mais même au niveau de ma marque, tu sais, j'ai plusieurs actifs de visibilité, de notoriété, tu sais, mon podcast, mon réseau, mes différentes offres, les différentes choses que j'ai faites avec le temps. Fait que c'est toujours de voir aussi après ça, comme quand on regarde le tout, qu'est-ce qu'on a, et est-ce que ça représente là où on veut s'en aller? Puis d'être honnête avec notre désir, de dire « Non, mais moi, je veux vraiment l'essayer, cette idée d'entrepreneuriat, pas parce que je veux me valider moi-même à travers une image de quelqu'un qui est courageux et blablabla, mais vraiment parce que, tu sais, moi, dans mon cas, c'était comme, justement, la routine du day-to-day dans l'entreprise, je pouvais pas. Le type de limitation sur ma créativité, je pouvais pas. Tu sais, tous ces genres de barrières-là étaient plus importantes pour moi que le sentiment de sécurité financier que j'avais avec mon chèque de paye ou avec mon fonds de pension.
Et puis, tu dis ça, puis ça me remonte vraiment plein d'émotions parce que j'en ai parlé sur un épisode plus tôt cette année, justement, quand j'ai fait un 2 semaines d'employé cette année, ben oui, c'est quand même drôle un peu, puis c'est parce qu'on dirait que c'est comme dans une autre ville, mais my God, que je me disais, oh boy, je sais pas comment les gens font, puis tu sais, pour vrai, tant mieux si t'as un job à temps plein, t'aimes ça, good, là, vraiment très très bon, mais moi j'étais comme, mais c'est pas ça que je veux, j'étais là, mais j'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps de comme mettre des choses en place. En tout cas, je trouvais ça vraiment tough. Puis moi, ce qui m'a fait en sorte que j'ai fait le choix de me dire « Ah, ben écoute, parce que moi aussi, j'ai un emploi à temps partiel, en fait, mais je trouve que c'est vraiment, j'ai le beau jeu, là, dans le sens où c'est un emploi à temps partiel de chez nous. Je fais les heures quand je veux. » Fait que, tu sais, pour vrai, je pense que ça, c'est comme le poste de rêve. Mais dans le fond, quand j'ai fait mon choix de me dire, OK, je quitte cet emploi, pas celui-là, mais lui que j'avais à temps plein, c'est parce que je me disais, je veux avoir du temps pour écrire mes livres. Puis j'ai dit, si je fais ça à temps plein, j'aurai pas de temps. C'est ça qui m'a fait peur. Puis au-delà de ça, il y avait, bon, tu sais, il y avait d'autres choses aussi, mais je me suis dit, je peux gérer le risque si c'est pour plus de temps pour faire ce que j'aime. Voilà. Puis pour moi, ça a été ça. Mais je sais que pour d'autres personnes, ça va être d'autres choses. Mais je trouve que ça, c'est ça, je trouve que ça représente bien.
Ben, c'est parce que ça crée de l'espace pour faire. Ouais. Tu sais, c'est ça que ça fait. Hein. L'argent, ça nous crée juste de l'espace. T'sais.
Exact. Ouais.
Puis plus on se sent en sécurité, plus on va être capable, genre, de donner notre meilleur, tu sais, de créer notre meilleur legacy ou de servir nos clients comme on veut. Tu sais, même en entrepreneuriat, quand t'es quelqu'un qui est comme, quand t'es trop tight, puis t'es dans une énergie de désespoir, genre, il faut absolument que je fasse de l'argent ce mois-ci, parce que sinon...
Mais oui, mais non!
Je veux dire, quel type de vibe t'envoie aussi à tes clients, genre, tu sais? Fait que là, c'est comme de l'auto-sabotage à quelque part aussi, de se mettre dans ces situations-là, parce que c'est comme, ben, réellement, tu sais, il y a des gens qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup sous pression, mais est-ce que c'est vraiment un rythme que tu veux garder sur le long terme?
Pour ta vie, t'sais? Sûrement pas. Écoute, je vois le temps qui file, puis je nous avais promis d'être très efficace sur le temps, puis je veux pas qu'on se quitte sans que tu nous parles, en fait, de ce qui s'en vient pour toi, parce que je veux te laisser un petit espace pour parler de ça. S'il y a des projets qui s'en viennent pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc voilà.
Ouais, bon, ben, oui, il y a des projets. En fait, tu sais, pour ceux qui sont intéressés à travailler avec moi, ben, j'ai un programme qui s'appelle Money Brand, puis c'est là qu'on on crée beaucoup tout ce qui est alignement, positionnement, stratégie au niveau plus de la notoriété puis de la visibilité pour justement mettre en place des offres et des systèmes qui sont durables. Donc, ça peut se faire à temps plein ou partiel, naturellement. Et là, je suis en train de réfléchir, justement, puis c'est pas mal dessiné dans ma tête, mais je vais l'annoncer bientôt, probablement dans mon infolettre puis sur mes réseaux sociaux, de créer justement une offre pour les entrepreneurs à temps partiel, pour aider les gens qui sont à différents niveaux. Que tu sois un nouvel entrepreneur à temps partiel, puis que tu es comme, OK, j'ai un projet que je veux mettre en place, que tu sois un entrepreneur à temps partiel qui est comme, non, moi, genre, je vais comme consolider justement un peu à ce niveau-ci, mais j'ai juste besoin peut-être d'échanger, de voir c'est quoi les prochains steps, des choses comme ça, ou que tu sois en transition vers l'entrepreneuriat à temps plein. Je suis en train de créer, je veux pas l'appeler un programme parce que je pense pas que ça va être un programme, je suis en train de créer une offre pour aller adresser les plus grands enjeux et besoins de ces publics-là, puis de ces personnes-là. Parce que, justement, il n'y a rien sur le marché qui s'adresse aux entrepreneurs à temps partiel. Et j'aurais tellement aimé avoir des communautés qui m'auraient aidé à ne pas me sentir aliénée dans dans cette situation-là, dans ces circonstances-là. Puis pas aussi de me sentir que je suis comme, ben là, illégitime dans mes projets.
Ouais. Surtout. Exact. Ah, c'est le mot parfait pour ça. Et puis, si on veut te trouver sur le web, on va où?
Ben, vous pouvez aller sur mon site mtamarque.com. Sinon, je suis active sur LinkedIn où je publie plusieurs fois par semaine, sur Instagram où j'ai commencé à faire des Reels récemment. Oui. Et ouais, que j'ai comme après ça mis sur TikTok, mais je sais pas, je trouve ça drôle TikTok. Anyway, et mon infolettre mtamarque.com/infolettre.
Génial. Je vais mettre tous ces beaux liens-là dans la barre d'informations. Merci énormément pour ton temps. Puis si tu savais à quel point ça m'a fait du bien, fait que je suis certaine que ça va faire du bien aussi à plusieurs personnes qui nous écoutent. Vraiment. Merci beaucoup. Puis ben écoute, je te souhaite un beau mardi. On est quelle journée? un beau mardi. Prends bien soin de toi. Puis j'espère qu'on garde contact. Va avoir la chance de se reparler.
Merci, bientôt. Marie-Pierre. Bye bye.
Bye.